Et bonsoir à tous, bonsoir chers supporters du championnat national. On se retrouve pour le rendez-vous hebdomadaire. Vous commencez à connaître le pli tous les mardis dès 20h pour parler championnat national. C'était la Coupe de France qui était au programme ce week-end. Donc on va détailler un petit peu notamment les matchs des pensionnaires de notre championnat. On parlera ensuite des matchs en retard. Enfin, il n'y en avait qu'un puisque Épinal-Beauvais a encore été reporté. Donc, on détaillera un petit peu ce Luznac-Cherbourg. Et puis, on finira l'émission en parlant un petit peu des enjeux de la 21e journée, qui sera donc la journée à venir du week-end prochain. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, il y avait quatre matchs qui concernaient nos équipes du championnat national. On va parler déjà de celle qui opposait deux équipes du même championnat, avec Niort le leader qui recevait Orléans. Et là, ça a été un petit peu la surprise sur ce match-là, puisque c'est les Orléanais qui, un petit peu la surprise générale, sont allés s'imposer à Niort.
Eh ben oui, tout à fait, je dirais même la surprise sur le gâteau, hein, pour faire un petit jeu de mots. C'est... Oui, j'ai connu mieux, c'est vrai. Mais cette
la
équipe
surprise
de
sur le gâteau.
Vas-y. Cette équipe de Orléans qui partait forcément à Niort pour faire un résultat, mais les 200 supporters qui s'étaient déplacés ne pensaient, à mon avis, pas voir une si belle surprise. Encore que si tu prends une place, généralement, c'est pour bien sûr aller voir un beau match. Niort partait largement favori, tout simplement, puisque Niort s'est imposé par exemple 5-1 contre Orléans il y a de ça à peu près un mois. Et surtout Niort, leader de National, qui qui avait montré de belles preuves de sérieux en Coupe de France face à des petits adversaires ou d'autres beaucoup plus valeureux, notamment d'autres clubs de National. Et là, c'est un peu la surprise générale, avec une première mi-temps très très emballée, très emballante même, je dirais, avec un but dès la 11e minute pour Orléans et l'égalisation de Niort.
Un petit peu un but casquette. Autant dans cette Coupe de France, on a vu des super buts avec des superbes frappes, et notamment dans d'autres matchs de National dont on parlera tout à l'heure. Mais là, ce but, le ballon qui rebondit deux fois dans la surface, même presque dans les 6 mètres, c'est vrai que c'est quand même assez gag, quoi.
Bon, j'osais pas le dire, donc si ça vient de toi, ça me fait plaisir. Alors, je suis pas le seul à avoir trouvé ce but pas le plus beau de la compétition, et c'est vrai que Niort a su bien réagir avec un but de Hébras dès la 24e minute pour égaliser, et juste avant la mi-temps, Darcy qui porte le score à 2-1. Niort a bien tenté d'égaliser, s'en procurer plusieurs occasions. Orléans aussi aurait pu faire le break, et finalement je dirais que c'est une décision logique à la fin du match que de voir cette équipe d'Orléans s'imposer. Bon, malheureusement pour les Chamois, ça sera pas cette saison que la Coupe de France sourira, mais ils auront montré avant ce match de très belles performances, du sérieux et tout ce qu'on demande à une équipe finalement qui est leader de son championnat et qui essaye de faire quelque chose en Coupe de France. Donc on espère que ça se passera mieux la saison prochaine.
Ouais, bon, après c'est clair que là ils vont vouloir qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ils vont se concentrer sur le championnat. Vous m'entendez bien ou pas?
Oui.
D'accord. Oui, ils vont se concentrer sur le championnat puisqu'ils sont ils sont donc leaders. Mais après je serais pas aussi dur que toi par rapport au fait que le résultat était logique, notamment en fin de dans le deuxième mi-temps et en fin de match. Il y a eu c'est Diao le 10 qui portait le 10 sur ce match-là à Niort. Il a vraiment pas mal poussé, des bonnes montées, il a bien apporté offensivement, et ça aurait aussi pu être on va dire que Niort aurait pu revenir dans le match et égaliser une deuxième fois.
Ah, c'est sûr que l'égalisation aurait pu bien sûr arriver, hein. C'est pas, je dis pas que Niort n'ait pas pu poursuivre son parcours, mais c'est vrai que il y a eu de belles occasions. Tu le disais, en deuxième mi-temps, on peut les dénombrer à 5. Je sais pas si c'est des occasions bien sûr plus ou moins franches, hein. On peut penser notamment en fin de match où où la frappe de Gazi, oui, passait juste au-dessus de la barre transversale, mais bon, c'est vrai que cette équipe de New York a manqué un petit peu de réussite, et c'est un peu contre ce qui s'est passé en championnat contre cette même équipe d'Orléans, où ben les ballons allaient au fond les uns après les autres quasiment, et bah finalement c'est, on va dire, une belle revanche pour Orléans. Et bon, c'est vrai que j'étais un peu sévère avec cette équipe de New York, mais c'est vrai qu'on était forcément un peu exigeant au vu du parcours et au vu de tout simplement du tirage au sort.
Je voulais ajouter quelque chose. C'est vrai qu'avec les petites blagues de Thomas en off qui nous passe ces petits mots, ça ne nous aide pas forcément à nous concentrer.
Emery, il y a un écho chez toi.
C'est Clément qu'on entend l'écho.
Ah ouais?
Ouais.
Et sinon, il y a la blague, comment il s'appelle, Gazi, son prénom.
Vas-y.
Emery, il a compris, non? Je peux pas, je demande. Non? C'est pas Ben?
Blague libyenne.
Ouais, exact. Moi j'ai pensé direct.
Chacun sa réponse.
Allez, on prenait.
Ouais, si. C'est bon là, j'ai plus d'écho.
Non, c'est bon, c'est mieux.
Merde, du coup, je voulais dire un truc sur ce match là. Ah oui! Je voulais dire sur Facebook, au moment du tirage, j'avais discuté avec Kevin Lefex, l'attaquant de Orléans, et je lui avais dit c'est quand même pas trop le tirage catastrophe, tu prends un gros qui joue dans ton championnat quoi, et en plus à l'extérieur. Donc du coup,
welcome to League of Legends Champions Spotlight.
Un match énorme puisque New York, ils vont les jouer deux fois cette saison en championnat. Et puis du coup bah tu prends quand même une équipe de New York qui caracole en championnat, et du coup bah ça faisait un match super compliqué. Et il m'avait dit ouais non, enfin si on avait pris un gros à ce tour-là, on le prendra au prochain tour. Et il était assez confiant, ça m'avait étonné, puis finalement bah c'est lui qui avait raison sur un match, tout est possible, et donc c'est Orléans qui continue l'aventure au contraire de New York. On va parler d'un... Là, il y a un écho. Non, c'est bon.
Ouais, c'est chez Clément qui l'a dit.
Ouais, je sais pas pourquoi. Depuis que ma carte a planté, ça fait de l'écho. Bah, je coupe mon micro de toute façon à chaque fois que j'ai pas à parler. Donc.
D'accord. On va parler donc de Quevilly qui a battu Angers. Avec, là, il y en a eu des belles frappes dans cette rencontre de Coupe de France. Voilà, je vais y arriver. Dans ces 16e de Coupe de France, c'est ça?
C'est bien ça.
Ouais.
Ouais, merci. Ça y est, je suis reparti sur de bons rails. Il y en a eu des belles frappes dans ces 16e de Coupe de France. Je pense notamment au match de Bourg-Perona, où Bourg-Perona, il marquait quasiment que des frappes de 30 mètres. Mais là, celle de Joris Collinet pour éliminer Angers, Clément, elle était quand même vraiment pas mal.
Ouais, c'est vrai que c'est un but magnifique. C'est vrai que quand on regarde les vidéos, je l'avais d'ailleurs sous les yeux au moment où je vous dis ça, une frappe pure, limpide, directement dans la Lulu, et tous les supporters qui crient de joie. C'est vrai que ben des frappes pures comme ça fait plaisir à voir, surtout quand l'équipe derrière s'impose sur le score de 1-0, que c'est ce but là qui déterminait la suite de la rencontre. Puis ça fait plaisir pour Joris Collinet, un peu à la peine on va dire cette saison, on l'a connu un peu mieux. Bon, certes c'est un championnat différent pour Quevilly, le national, donc on peut pas non plus marquer but sur but en étant promu, mais c'est vrai que c'est un peu le patron de cette équipe, Joris Collinet, et il l'a montré sur le terrain, un huitième de finale dans la poche. Bon, le score aurait pu être plus large pour Quevilly et plus serré encore, même au point d'être à égalité pour Angers. En duel d'occasion, pour avoir compté, pour moi ça fait 7-5 pour Quevilly, et des occasions plus que franches. Donc c'est vrai que c'était un match intéressant, ça allait de part et d'autre du terrain. Et je pense que les personnes qui ont pu voir le match, ou qui ont vu le résumé vidéo se sont fait vraiment plaisir en regardant ces belles actions.
Ouais, c'est vrai que ça allait pas mal d'un but à l'autre. T'avais ce but juste en début de deuxième mi-temps, et puis après ça s'emballe, ça joue contre, ça joue vraiment football total. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment sympa dans la Coupe de France. Ça donnait, ouais, des beaux matchs, je sais pas, mais des matchs, ouais, vraiment agréables à suivre, quoi, avec un football direct et du coup des occasions, ça allait d'un but à l'autre. Ça, c'était vraiment cool, ouais. Pour conclure donc sur les deux matchs qu'on vient d'aborder, on vient de parler donc de Orléans qui est bien allé gagner à New York, Quevilly qui s'est défait d'Angers, et au prochain match, Quevilly rejouera encore à domicile et recevra à nouveau Orléans qui se déplacera donc à nouveau chez un des pensionnaires de son championnat. En fait, Orléans, la Coupe de France, finalement, ça ne les change pas trop des matchs habituels, quoi.
Pour Quevilly non plus. Après, pour nous, le point positif, très positif, c'est qu'on aura un club de national en quart de finale, quoi qu'il arrive. Et ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'on va continuer à parler de la Coupe de France, au moins pendant un tour, pendant le débrief. Donc, ça va nous rajouter de l'eau à notre moulin.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En plus, peut-être une chance aussi que le club de national devienne le petit poussé de cette compétition-là, puisqu'il reste donc encore deux clubs de CFA avec Bourg-Perona et Drancy, mais c'est vrai que si le club national devenait le petit poussé de la compétition, ça ferait encore plus parler de lui, et ça serait encore plus agréable pour notre championnat et pour notre émission aussi, il faut bien le dire. On va parler donc de, je disais, Drancy qui s'est qualifié à nouveau. Donc Drancy, on vous le rappelle, Thomas, en deuxième, ils avaient trouvé quelle équipe déjà ?
Quand ça ? Ils avaient battu Strasbourg, oui, 3-3, après prolongation, au tir au but, alors que Strasbourg menait 2-0. Et puis 3-2 à 92e, oui, merci de me le rappeler, ça fait toujours plaisir.
Après avoir joué cet adversaire très très valeureux, que cette équipe strasbourgeoise qui les avait poussés jusqu'au tir au but, ils sont allés s'imposer tranquillement à Limoges, autre club de CFA2, Limoges qui avait quand même battu Boulogne au tour précédent.
Ouais. Et ils joueront le Gazlec d'Ajaccio, donc Drancy jouera le Gazlec d'Ajaccio à Ajaccio au prochain tour.
Et voilà, et donc la transition est toute trouvée. On va parler donc d'un autre club de National qui a battu un club de Ligue 2 après Quevilly qui a battu Angers. Le Gazlec d'Ajaccio a cette fois disposé donc de 3 avec un but... avec un but de Michael Coloredo, l'avant-centre ajaccien, qui donc était à la conclusion d'un beau mouvement qui a permis à son équipe de l'emporter, un but à 0 face à cette équipe de 3. On écoute la réaction du buteur Michael Coloredo juste à la fin du match.
Les attaquants aiment bien marquer des buts importants comme celui-là. Après, je souligne tout le travail de l'équipe encore ce soir. On a montré qu'on avait des vraies valeurs, qu'on était un vrai groupe.
D'accord Thomas, c'est des vraies valeurs, c'est un vrai groupe. Tu sens un petit peu l'envie, la rage dans ces propos-là.
Exactement.
On a bien notre ami Strasbourgeois, tout ce que tu aimes chez cette équipe d'Ajaccio, on le sent dans cette interview-là. Il dure 10 secondes, mais tu le vois quand même, non ?
Ouais, mais c'est les Corses. Je suis désolé, mais... c'est trop, je ne sais pas. Non, mais ouais, mais après, je suis d'accord. Après, c'est des moments comme ça que tout le monde a envie de vivre. Mais ça reste Ajaccio, je suis désolé. Je peux pas. Après ce qu'ils ont fait à Colmar et à d'autres clubs, même ce qu'a fait Bastia ou d'autres à Strasbourg, je peux pas. Je suis désolé. Mais c'est vrai que bon, je suis content pour eux, voilà.
D'accord. on va écouter le gardien Lucas Rastello de cette équipe d'Ajaccio. Vous allez voir, au niveau de l'envie dans l'interview, c'est un petit peu la même chanson.
Avec un public comme ça, on ne peut que tenir ici. Ici, on est chez nous. Personne ne l'a gagné ici. Ça, c'est la victoire du JFC Orléans dans son intégralité.
Donc voilà, le gardien Lucas Rastello qui lui aussi montre bien son envie. Vous avez bien compris, c'était la victoire du JFC OA. Et puis c'est comme ça, c'est quand même bien sympa pour pour cette équipe de d'Ajaccio, donc qui sera le seul représentant corse au prochain tour. Ils étaient trois encore en 16e et après l'élimination donc de Bastia à Valenciennes et de l'AC Ajaccio qui a été battu donc à Mourperona. Donc j'avais peut-être pas tout à fait précisé tout à l'heure Thomas, mais je disais bien Ajaccio, le club de national. Donc normalement tu aurais dû comprendre. L'autre club d'Ajaccio a par contre été battu à Mourperona 3-2. Et là, au niveau des buts de Mourperona, si vous les avez pas vus, je vous invite vraiment à les voir. Parce que bon, déjà en plus c'est fantastique, avec toujours le petit qui bat le club de Ligue 1. Mais en plus les buts qu'ils mettent, c'est quasi, il y a deux frappes de 30 mètres qui sont superbes. En magnifique. Plus, bon, pour toi Thomas, il y aura le côté en plus du club corse qui perd. Je pense que ça te fera plutôt plaisir. Ouais. Donc,
Non, mais faut pas faire réflexette. C'est juste, moi, je voulais juste dire un truc, c'est quand même, je viens de me rendre compte quand même que les Corses, ils ont quand même trois clubs dans les trois premières divisions françaises. Hein, on est bien d'accord.
Ouais.
Et Paris, ils arrivent même pas à en avoir un, quoi. Alors que Ajaccio, ils en ont un en Ligue 1, un en National, plus Bastia, qu'on mettra pareil. Et alors que Paris, ils arrivent même pas à en avoir un deuxième
en Ligue 1. Première division française, Paris.
Ouais, mais ils en ont aucun en Ligue 2.
Ouais, mais sur les trois premières divisions françaises, si je reprends ta comparaison, il y en a quatre.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas deux vraiment pro, quoi, tu vois.
Ouais, mais bon, il y en a un maintenant qui fait partie du Qatar, donc qui va continuer à se développer. Pour les autres, on sait qu'il y en a un qui se rapprocherait peut-être de Domenech et l'autre qui voudrait être pris par Luis Fernandez. C'est des choses quand même assez sérieuses, puisque bon, pour le Red Star, le président voulait l'entendre juste à titre indicatif au niveau des conseils, où il jugeait que ça pouvait être intéressant avec Raymond Domenech. Ensuite, pour le Paris FC et Luis Fernandez, il y a quand même des vraies discussions d'histoire de faire un deuxième grand club à Paris, et donc bah, déjà le monter, pourquoi pas, en Ligue 2. Et c'est vrai, être dans ce cas-là la ville qui représente le mieux le football sur les trois premières divisions. Après, Ajaccio et Bastia, c'est quand même deux villes différentes.
Hein. Ouais, mais c'est les Corses. c'est juste pour dire quoi, voilà, que c'est vrai qu'ils ont des projets intéressants. Maintenant, il faut que ça concrétise. Parce que c'est quand même, on est un peu reculé par rapport aux autres pays européens, quoi. À ce niveau-là.
Paris, tu parles.
Ouais, mais donc maintenant, comme il y a les Qataris au PSG, bon, bah, j'espère qu'il y aura. Ça va se développer un peu partout, parce que j'avais aussi le Red Star, là, ils ont un projet aussi, mais j'avais entendu ça aussi sur plusieurs années. Enfin, chacun maintenant, et c'est vrai que c'est. Chaque club parisien cherche à être le deuxième, quoi, après le PSG. Maintenant que le PSG est vraiment haut, quoi, il en faut vraiment. Enfin, ça serait l'idéal, quoi.
Vas-y, je t'en prie.
On va ensuite, donc, ben, on a fait le tour des clubs de national. Donc, on a parlé de tous les matchs qui concernaient nos clubs. Il y en avait encore un dernier. C'était les Lusitanos de Créteil qui recevaient Bordeaux. Ils alignaient pour l'occasion leur nouvel attaquant qui prêté par Châteauroux, je savais plus. Et donc là, c'est lui qui a à deux reprises Essouambé, qui est rentré à la place de Nui Laïfa à 20 minutes de la fin pour essayer un petit peu d'inverser la tendance après l'ouverture du score de Siani. Et à la 77e, bah, il était le héros de la soirée en égalisant et en permettant à Créteil de décrocher la prolongation. En plus, Thibaut Ferrat ensuite arrête un penalty et donc l'histoire est encore plus belle pour leur permettre d'aller en prolongation. Là, dès le début de la prolongation, ça se corse un petit peu puisqu'Henri Cévé, dès la première minute de la prolongation, double la mise pour Bordeaux. Et pour Essombé, l'histoire n'est pas finie puisque c'est à nouveau lui qui va égaliser pour les Lusitanos, donc pour son premier match. Il rentre en cours de jeu à 20 minutes de la fin. Il marque deux buts face à Bordeaux. On attend de le revoir dès le week-end prochain en championnat. Parce que là, ça pourrait être un nouveau renfort de plus, une nouvelle arme offensive de plus pour cette équipe de Créteil. Après, bon, malheureusement, ben, le côté un petit peu moins marrant de l'histoire, c'est que après les tentatives manquées de d'Otman Jelilahin et de Elder Esteves, c'est finalement Bordeaux qui s'impose au tir au but comme au tour précédent à Saint-Étienne. Les Bordelais s'imposent donc 4-3 et continueront donc l'aventure. Créteil, néanmoins, je pense, n'a pas à rougir de sa prestation. Je m'attendais, pour vous dire, pas forcément à ce qu'il fasse un aussi gros match. Jean-Luc Vasseur trouvait des motifs de satisfaction dans le dernier match où ils avaient été battus au Paris FC. Moi, j'avais tendance à le voir un petit peu trop positif de temps en temps, ben, à croire qu'il connaît quand même vraiment bien son groupe. Ils ont été capables de fournir vraiment un gros gros match qui a dû faire plaisir à tous les supporters du Val-de-Marne, donc de cette équipe cristolienne. Et donc maintenant, on attend la confirmation en national après finalement ce beau parcours en Coupe de France qui certes prend fin en 16e, mais à l'issue d'un match vraiment top pour cette équipe cristolienne. Voilà, on a fait le tour de nos clubs de national. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur un des matchs dont on n'a pas parlé avec toujours la magie de la Coupe de France qui opère à ce stade de la compétition avec les petits qui battent les gros?
Ben moi je voudrais parler de Lucent. Parce que Luçon, je suis pas lyonnais comme tout le monde le sait. Lucent, club de Vendée, qui évolue en CFA.
À ne pas confondre avec
Luchon.
Qui se situe dans les
Pyrénées.
Voilà. Allez, vas-y.
Contrôle.
Donc ouais, non, je veux dire que ils volent pas leur place parce que pour un premier de CFA, ils ont bien joué quand même. Ils nous ont pas mal bougé. Bon, certes, nous on n'a pas eu trop de. On a eu un peu Gomis, un peu maladroit, même beaucoup. Lisandro qui a fait son match, sinon derrière Umtiti, il est bon, c'est un petit qui monte bien, bonne recrue, même si on le voulait pas. Et donc ouais, Lucen, franchement, ils m'ont impressionné. Ils ont bien joué. En plus, ils avaient pas mal de. Comme dans chaque club de CFA ou de CFA2, il y a souvent des mecs recalés de centre de formation et il y en avait qui étaient pas mal. Donc, pas bonne impression pour Lucent. Dommage qu'ils aient pas pu passer, mais bon. Ouais, le gros s'est réveillé.
Ça m'arrange
bien, ouais.
M'arrange bien qu'ils aient pas passé, non.
Non, mais parce que ça aurait été Marseille, tu vois, je m'en foutais, mais c'est Lyon. Ouais, donc, Et ce que j'ai eu peur, c'est quand ils ont mis le poteau, là, j'ai dit merde, s'ils mettent un but, on va aller en prolongation et tout, ça va être chaud, quoi.
C'est dommage, parce que s'ils avaient marqué ce but-là, ça aurait peut-être changé des choses, hein.
Exact. Ah oui, ils étaient.
C'est à fond. Dans tous les clubs, t'as pas un Diego Lugano pour surgir à la dernière minute du temps additionnel pour arracher la.
En plus, nous, notre.
Ou un Brandao.
Notre sauveur dans ces cas-là, c'est Koné, il est à la CAN, donc. Je pense pas qu'ils prennent l'avion de Ouagadougou pour arriver à la Beaujoire, quoi. Mais sinon, Koné, ouais, il sauve mal de situations, je me rappelle. Souvent sur corner, mais bon. Donc voilà, coup de chapeau à Lucent qui aurait mérité meilleur sort, mais bon. Le gros a assuré son statut, voilà. Et donc Lyon qui rencontrera à Bordeaux, un beau match. Le choc, comme disent les médias. Pour ces huitièmes de Coupe de France. Donc voilà, ouais, si vous voulez parler de vos clubs, allez-y.
Tu parlais de, juste pour rebondir sur ce que tu disais, tu parlais de Luchon qui est premier en CFA. C'est vrai que ça pourrait être des clubs.
Luchon.
Et oui, c'était pour voir si tu suivais, c'est bien. Donc tu parlais de Luchon, les Vendéens premiers en CFA. Et c'est vrai qu'il y a une autre équipe qui a réussi, c'est Bourg-Péronnat, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et Bourg-Péronnat qui sont également aussi bien placés pour accéder au championnat à la fin de la saison, parce qu'ils sont deuxième de leur poule, deuxième à égalité de points avec la Duchère, mais ils ont un match en moins par rapport à la Duchère. Et après, ils sont deuxième derrière la réserve de l'OL. La réserve de l'OL ne pourra pas monter en national. Donc ça pourrait être une autre équipe qui fait un beau parcours en Coupe de France et qui ne néglige pas le championnat pour autant.
Exactement. Et juste pour une petite anecdote, le deuxième du groupe de Lucent, c'est Carquefou, les bourreaux des Marseillais en 2008. Juste pour la petite anecdote.
une autre équipe de
CFA.
De CFA qui avait fait un beau parcours en Coupe de France.
Dont on se souvient pour la chanson.
Et qui malheureusement était tombé sur le PSG. Oh.
Oh.
Comme que je dis, c'est dommage.
Moi, j'ai encore la chanson en tête, c'est à Carquefou, il y a toujours des suspens jusqu'au bout. Bon, elle peut aller plus loin, mais c'était sympa.
La journée et la victoire ne va plus vous échapper. Allez, j'arrête.
Ah, mais tu la connais par cœur, vraiment?
Non, mais parce que j'aimais bien, c'était entraînant.
Ouais, à force, elle était pas mal. La chanson était pas mal.
Il la mettait partout.
Tu la connais par cœur?
Ouais, mais il n'y a pas vraiment de paroles. Vraiment, la connaît mieux, je pense.
On la passera dans le débrief la prochaine fois.
Ouais, ouais, ce serait pas mal.
Petit cadeau pour toi. Un autre match duquel vous vouliez parler?
Non. Toi, tu nous parles de Sablé-sur-Sarthe?
Ah non, avec je pensais plutôt vous parler d'une autre équipe.
Néné qui plonge un peu.
Oh non, tu l'es fouché. Non, non, autant Paris avait galéré au match d'avant avec...
Non, mais sur le truc, il peut plonger un peu.
Ouais, mais il est quand même bien pris. Il fait tout le temps ça, il fait son crochet, il pousse le ballon un petit peu loin et après le mec lui tape les pieds, il y a faute, c'est indiscutable.
Bon, Loïc Rémy, il a essayé, il a moins réussi, hein, ça.
Qui ?
Loïc Rémy.
Ah, mais bon, on parle pas de joueurs qui évoluent dans des clubs de même niveau aussi. Hein.
Tu vas te faire des amis là.
Hein. C'est une honte ce mec.
Qui ?
Placide, le gardien du Havre. Quelle honte.
Bon, le gardien du Havre.
Attends, le but de Brando, il sort à la pêche.
Je pense c'est un joueur que j'aime bien. Hein. Bonnet formé à... Je ne sais pas s'il va passer par Niort.
Placide, peut-être.
Non. Tu sais, le but que Niort rate à 5 minutes de la fin, là. Ah. Où c'est Mendes, justement, le buteur havré, qui sert en retrait, quasiment devant le but vide, un autre de ses partenaires, Alexandre Bonnet. Et Alexandre Bonnet, il faut vérifier, mais il me semble qu'il était venu à Toulouse. Et je me demande
Il était nul à Toulouse, il n'a rien fait, le pauvre.
Et pourtant, il venait, il était extrêmement prometteur. Et je me demande s'il venait pas de Niort.
Oui, il a été formé du côté de Niort, t'as raison, Emeric.
Eh ben, ils l'ont mal formé. En fait,
non, arrête.
C'est un chamois, et ils l'ont formé comme une chèvre. C'est vrai. Non, mais attends, c'est scandaleux hier soir, là, devant le but à 2 mètres.
C'est un péché de jeunesse. Voilà. Ouais.
Non, mais le pauvre, il a, sa carrière, elle a pas décollé.
Il a 25 ans, il joue du côté du Havre, si le Havre monte...
Mais il était à Toulouse, hein. Il n'a pas fait grand-chose.
Et après, il a été prêté du côté de Sedan pour jouer 42 matchs et marquer 7 buts.
Moi, c'est pas...
Non, mais ouais, il a joué en équipe de France Espoir. C'était un joueur, ouais, t'as raison, sa carrière, elle a pas décollé parce qu'on en attendait beaucoup. Moi, je me rappelle quand il était arrivé de Niort à Toulouse... il le présentait comme un futur bon joueur. En plus, ouais, c'était à l'époque où il était pris après avec les espoirs, etc. Et c'est vrai que c'est dommage. Et c'est vrai qu'hier, bah, malheureusement, il n'est pas été à son avantage sur cette action-là. Il aurait pu.
Mais juste aussi un peu. Je vais m'indigner contre quelque chose, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, comme dirait Stéphane Hessel, indignez-vous.
Voilà.
C'était juste pour les mecs qui croyaient qu'on connaissait pas Mendes, alors qu'il est connu, tout le monde le suit depuis des lustres. Et donc juste les mecs de France Télé qui se croyaient découvrez, vous venez de découvrir, il se révèle aujourd'hui Ryan Mendes, alors que tout le monde le connaît. Enfin, tu suis un peu le foot, tu le connais vite ce Mendes là.
Enfin si, tu suis le foot un peu plus que Xavier Gravelaine.
Oui, non mais Xavier Gravelaine, merci. Guingamp, merci. Quand Guingamp, Monaco, génial.
Tu vas pas faire la liste de ces clubs parce qu'on a qu'une heure d'émission.
Non, c'est ce que là, on en a pour longtemps, c'est sûr.
Non, après, on va quand même parler de l'équipe du match qui est passé peut-être un petit peu inaperçu et qui met fin à une belle aventure d'une équipe de CFA. C'est l'AS Valence.
Oh, les pauvres.
Malheureusement, ils avaient rempli le stade pour l'occasion face à Evian.
Et puis, j'ai pensé à toi, je dis Emery qui va être dégoûté.
Et ouais, ce coup de poignard dès la 8e minute, c'est dommage. Après, bon, je ne vais pas s'attarder sur ce match-là. Evian a fait parler l'expérience. C'est dommage pour les Valentinois. C'est d'autant plus dommage que bon, cette année, pour la montée, ça risque d'être difficile parce qu'ils sont dans le groupe de la Duchère et de Bourg-Perona. Donc, comme il n'y aura qu'un seul club qui va monter, ça risque d'être compliqué. À part, bon, bien sûr, si on avait encore 7 clubs qui déposaient le bilan en national, mais ça m'étonnerait. Mais non, c'est dommage ouais, pour cette équipe de Valence. Juste, je voulais vous dire, retenez un nom parce que il a fait encore un gros match face à Evian.
Et je prends mon calepin et je note.
Voilà, il joue arrière droit. Il s'appelle Shafik.
Shafik.
Et franchement, et
belle,
c'est un.
Et belle le nom.
C H A F I K.
Ok.
Son prénom c'est Fouad. Et c'est vrai que c'est un joueur, je pense, qui mériterait qu'on entende parler de lui. Bon, c'est dommage qu'il ait déjà 25 ans, mais pourquoi pas qu'il ait tapé dans l'œil de certains recruteurs, pourquoi pas même du côté d'Evian, parce que c'est vraiment un joueur. Il a été remplacé cette saison au poste de latéral, alors qu'avant il jouait plutôt milieu offensif, mais il a des montées exceptionnelles et on en voit même dans le résumé une super montée dont il est l'auteur. Et c'est vraiment le meilleur joueur pour moi de cette équipe de Valence. Et c'est dommage pour lui et pour toute son équipe qu'on puisse pas les retrouver plus haut. Mais bon, voilà, l'aventure s'arrête là. Ce n'est pas comme en 96 quand l'AS Valence avait atteint les quarts de finale, battu à l'époque par la grande équipe d'Auxerre qui réalisera plus tard le doublé emmené par Laurent Blanc, doublé Coupe de France championnat. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil historique.
Et juste par rapport à Valence, je sais pas si tu as vu la coquille qu'il y avait dans un site internet. Au lieu de dire l'AS Valence, ils avaient dit le FC Valence.
Et le FC Valence, c'est le club en Espagne ?
Oui, c'est pour ça.
Ouais, non, mais à Valence, le problème, c'est qu'il y a aussi le FC Valence. C'est un club qui existe, mais c'est un club de DH, quoi.
Ah ouais.
Mais oui, mais ils font tout le temps les conneries, ou alors des fois. Sur l'équipe, tu avais le lien, tu sais, pour aller vers l'équipe, vers l'effectif, et tu allais vers l'effectif du club espagnol, quoi. Tu sais, t'as tout le temps ces conneries-là, et ouais, donc c'est possible.
Je savais pas que Soldado, il jouait dans la Drôme, quoi.
Ouais, moi non plus, je suis encore moi qui joue en CFA.
T'imagines le mec, il joue en DS, il fait tu joues, il fait ouais, je joue à FC Valence.
Mais tu parles de FIFA ? Non, on va voir sur l'équipe.
Ok, on a fait le tour de cette Coupe de France. On va enchaîner sur le championnat national rapidement. Il y avait un match au programme, un match au scénario un petit peu fou sur ce terrain de l'USNAC. C'est Cherbourg qui après avoir mené 2-0, s'est fait remonter 3-2. Et je pense que c'est un match qui va pas vraiment faire plaisir aux supporters de Cherbourg. Il y en a certains qui considèrent leur équipe comme déjà reléguée en CFA et n'ayant pas le niveau pour évoluer dans ce championnat national. Je pense qu'il ne faut pas non plus s'emballer trop vite. Il y a quand même des équipes qui sont assez faibles aussi dans ce championnat national et qui sont donc du niveau de Cherbourg, des équipes aussi qui sont sur des séries très négatives comme Martigues qui n'a pas gagné depuis la même journée que Cherbourg, donc voilà, il ne faut pas lâcher prise, mais c'est clair que Cherbourg reste sur une série vraiment très 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 négative. Et allez, on va conclure donc cette émission du débrief en parlant donc de la journée à venir. La Coupe de France, on a terminé. On va donc recommencer sur le championnat national. Ça sera donc la 21e journée au programme. Et puis une grosse affiche et des matchs intéressants. La grosse affiche, je pense que vous l'avez tous noté, ça va être ce match entre Rouen et Nîmes.
Bien sûr, une très belle affiche qui va nous promettre, à mon avis, un beau match, puisque deux équipes auront à cœur de faire une belle performance, notamment pour se rapprocher du podium. Bon, certes, ils le sont déjà sur le podium, mais de se rapprocher d'une éventuelle Monter en Ligue 2, et c'est vrai que ça ferait directement la différence derrière, l'un sur l'autre, à moins qu'il y ait match nul.
Ouais, c'est surtout ça. Surtout ça, c'est que je pense l'enjeu, surtout de faire l'écart par rapport à l'autre. Et je pense surtout pour les Rouennais qui jouent à domicile. En plus, c'est lors de la 20e journée qu'ils sont tombés du podium. On l'a dit, ils étaient sur le podium depuis la 9e journée, et la Nîmes a pris la place. Donc je pense que ça va être surtout pour Rouen de faire le trou contre les Crocos. Comment on le voit ce match du côté de Nîmes, Jordan? Ça sera pas perdre, ou on y va carrément même pour faire le trou?
Ah, moi, on y va carrément pour faire le trou. Le coach l'a dit, on va aller chercher quelque chose là-bas, et il veut carrément peser le trou dès la 21e journée, et pourquoi pas s'échapper, et pourquoi pas essayer de passer deuxième par rapport à Épinal qui est à un point des Nîmois. Et donc on y va pour faire quelque chose, et espérons que pour Nîmes qu'ils vont en ramener quelque chose.
Ouais, ça sera pas évident. Après, Nîmes, il reste quand même sur une bonne lancée. Leur dernière défaite, c'était en novembre à Ajaccio. Depuis, pas de défaite. Donc ouais, ça, la bonne série à poursuivre. Une série un tout petit peu moins bonne pour Rouen, Thomas. Et là, il faudra vraiment se ressaisir pour gagner sa place, quoi.
C'est sûr, parce que du côté rouennais, n'empêche, à domicile, c'est aucune défaite depuis le début de la saison. C'est la seule équipe à être invaincue sur son terrain avec Vannes. Et que ça va être très dur pour les Nîmois de gagner à Rouen. Faire match nul, ça c'est plus probable, parce que Rouen, même s'ils ne perdent pas à domicile, ils sont très peu efficace, et s'ils gagnent, c'est toujours par un écart d'un but ou deux buts maximum. Et donc c'est vrai, comme tu dis, Rouen était sur une défaite contre le Red Star le 14 janvier dernier, une défaite qui leur a fait très mal, parce que le Red Star, voilà, ils sont dans la lutte du maintien, et pour une équipe telle que Rouen qui veut sa place sur le podium pour monter en Ligue 2 en fin de saison, ça fait mauvais genre. Donc c'est à eux de se rattraper, et ils auront à cœur de le faire dès ce week-end contre Nîmes, qui ce sera un match très difficile pour les Rouennais, mais ils y croient, ils ont toutes leurs chances, l'équipe, va être un beau match, quoi, en tout cas.
Ouais, non, c'est sûr, un beau match. Puis dans ce que tu dis, ouais, c'est vrai que la semaine dernière, ils ont fait ce faux pas au Red Star. C'est clair que c'est un faux pas, tu le disais, parce que le Red Star, ils sont dans les profondeurs du classement, et aller perdre là-bas, surtout quand tu mènes 1-0, etc., c'est vraiment une contre-performance. Mais là, ils ont quand même la chance, du coup, que Nîmes leur soit passé devant, mais ils ont la chance de les recevoir juste derrière, et donc de pouvoir tout de suite reprendre leur bien et cette place sur le podium. T'as raison, ils ont pas perdu. Bon, là, il faudra gagner pour passer Nîmes, étant donné que même s'ils ont le même nombre de points, Nîmes est devant à la différence de but. Mais ouais, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir direct être confronté et pouvoir rattraper les points perdus. Tu disais l'effectif Rouen a notamment récupéré Endo, c'est de ça que tu voulais parler sans doute.
Voilà.
L'homme du super début de saison.
Ils ont récupéré ce joueur qui a quand même un des meilleurs buteurs, je crois. J'ai pas les chiffres.
Il était meilleur buteur, mais depuis, le problème c'est qu'il a pas assez joué de match, et donc il s'est fait
dépasser. Mais... ça sera à lui aussi de nouveau de bien revenir sur le terrain. Et puis voilà, comme tu as dit, ça, pour Rouen, c'est l'occasion rêvée pour revenir sur Nîmes et sur le trio de tête, quoi. Parce que là, faut pas lâcher des points. Si maintenant ils sont là, lâchés, ça sera plus dur pour la suite. Parce que derrière, ça presse aussi avec Vannes et Ajaccio.
Ouais, après, bon, là, on aborde les points positifs pour Rouen avec le retour de Endo. Le problème, c'est que on continue 2012 en 2012 comme on était en 2011 pour Rouen, puisque Endo revient, mais là c'est Dugimon et Chabot qui sont blessés devant, donc ça va être compliqué d'avoir une équipe vraiment l'effectif au complet. Et puis même j'ai lu que Rouen avait mis à l'essai Rudy Carlier, l'ancien Strasbourgeois d'ailleurs, Thomas. Pour essayer un petit peu de contrer cette pénurie d'attaquants.
On va parler d'abord un petit peu de devant, et puis après on parlera de derrière, on abordera les matchs d'Ajaccio et de Vannes. Je sais plus qui a dit que peut-être Nîmes ou Rouen en cas de victoire pouvaient donc se rapprocher de Épinal, voire les déplacer. C'est vrai donc Épinal se déplace à Créteil et Créteil bah, qui voudra sans doute confirmer sa bonne prestation, même s'il y a eu des défaites en Coupe de France face à Bordeaux, et avec notamment bah, son nouvel attaquant prêté par Châteauroux et son B, et qui donc pour son premier match face à Bordeaux à domicile a déjà inscrit 2 buts. Ben là, face à Épinal, je pense qu'il voudra continuer. Et Créteil, qui a été battu au Paris FC, même si dans le contenu, Jean-Luc Vasseur était plutôt content, là, il va falloir montrer qu'on peut faire du contenu comme on l'a fait sur les 2 derniers matchs, mais on peut aussi être efficace et prendre la victoire. Donc ça aussi, ben, ça sera une belle rencontre de ce vendredi soir.
Juste à noter aussi que Épinal, ils ont encore un match en retard, donc par rapport aux autres équipes de tête, ils ont encore un match en moins à jouer. Je ne sais plus contre quelle équipe, je ne sais plus
c'est, si c'est Orléans. Non, c'est le match en retard d'Épinal, bien sûr, c'est contre Beauvais, puisqu'il devait se jouer ce week-end, il a été encore reporté. Je crois que c'est la troisième fois qu'il le reporte.
T'as raison.
Épinal, ils ont ce match quand même à domicile face à la SBO. Thomas, on parle de Van qui joue à domicile. On l'a dit tout à l'heure, ils ont toujours pas perdu à domicile. C'est vrai que c'est plutôt à l'extérieur que ça pêche. Là, face à Cherbourg, qui est pas vraiment une équipe bien en forme de ce championnat, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Cherbourg n'a pas gagné depuis la fin septembre, je crois, et ils ont encore perdu en match en retard le week-end dernier face à l'Uznac. Van, là, c'est on gagne ou là on fait vraiment une première croix sur la montée.
C'est sûr, comme on disait, Van Tech, ils sont capables du pire comme du meilleur. De belles performances à des clubs assez huppés, et puis face à des petits, ça fait match nul ou ça joue très mal et ça gagne au forceps. Donc là, il va falloir montrer la supériorité au niveau du classement. Déjà, elle est là, mais au niveau du jeu, surtout du terrain, pour que la logique soit respectée et que Van accroche. Le bon wagon qui commence à partir avec les clubs du haut de tête qui ont un rythme assez soutenu. Donc, Van candidat à la montée, dès leur redescente, leur objectif c'est de remonter immédiatement, quoi. Faire l'ascenseur, mais dans le bon sens du terme.
Ouais.
Et donc, voilà, il faut qu'ils gagnent et moi je pense qu'ils seront au rendez-vous. Mais on n'est jamais à l'abri avec Van, ils peuvent très bien. Se déconcentrer,
prendre un domicile, but rapidement.
Ils peuvent prendre un but et après ça peut partir, mais moi je les vois s'imposer assez normalement. Je dirais pas facilement, mais je les vois gagner quand même pour recoller au peloton de tête.
Van, je regardais là un petit peu pour étayer tout ça. Van à domicile, quand même, ils en claquent des buts. Parce que le dernier match contre le Red Star, ils ont gagné 4-0, donc ils en ont mis 4. Avant
oui, mais c'est Red Star aussi.
Ouais, mais bon, attends, contre Fréjus, ils ont fait 3-1, ils en ont encore planté 3. Contre Fréjus, Créteil, avant 3-3, ils en ont encore planté 3. Contre Colmar, ils en avaient encore mis 3. Enfin, sur les derniers matchs, ils ont toujours mis 3 ou 4 buts à domicile. Ouais. Après, à l'extérieur, c'est clair que ça pêche. T'as dit, ils ont été capables de.
Sais que souvent, quand tu dis ça, quand tu relèves un truc que t'as remarqué, qui se répète à chaque fois, le match d'après, c'est pas tout pareil.
Ouais, bah après,
ça change, quoi.
Pour étayer encore dans ce sens-là, Cherbourg sur les derniers matchs, là à l'Uznac, ils en ont pris 3, ils gagnaient 2-0, ils ont perdu 3-2, ils en ont pris 3. Le coup d'avant, ils en avaient encore pris 2 contre le Poiré et 2 contre Colmar. Contre le Gazélec, ils en avaient pris 5. Sur les derniers matchs, Cherbourg, ils n'ont pas pris moins de 2 buts depuis le 22 octobre où ils avaient fait match nul à Bayonne 0-0. Sinon, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les 8 derniers matchs, ils ont toujours pris minimum de buts. Ça sera aussi un des enjeux, ouais. T'as raison. C'est vrai que le coach de Cherbourg l'a dit. Il fallait essayer donc de changer un petit peu son dispositif pour qu'il prenne moins de buts. Parce que c'est clair que prendre 2 buts par match, bah, ça complique, ça complique grandement les choses.
Ouais, en plus, ils sont, je vois, au classement, ils sont à 3 points de Martigues, le premier non relégable. Donc, ils pourraient commencer leur opération commando dès maintenant. Mais après, faut voir. Ils en sont capables.
Ouais,
le problème, c'est que. Pas le dire, mais il faut le faire.
Depuis,
extérieur, victoire. Donc.
Ouais, à l'extérieur, une seule victoire, t'as raison. Mais même à domicile, victoire tout confondu, ils n'ont pas gagné quand même depuis la fin septembre. C'est un gros problème. Mais par contre, pour revenir à Van, c'est vrai que là aussi, cette journée, elle est d'autant plus intéressante avec ce Nîmes-Rouen devant. C'est que Van, va forcément au moins en doubler un, quoi.
Parce que juste, si je te coupe, Emric. Donc Van n'a jamais perdu à domicile, donc.
Ouais, ouais, non, mais on l'a dit tout à l'heure. Rouen et Van, Thomas l'a dit, c'est les deux seules équipes qui n'ont pas perdu à domicile.
Ouais.
Mais Van, en cas de victoire, ben, soit en cas de match nul, ils reviennent à la même hauteur, tous avec 36 points avec Nîmes et Rouen, s'il y a match nul sur Nîmes-Rouen. Et après, s'il y a une des deux équipes qui gagne dans le choc des rouges, on va dire, entre Nîmes et Rouen, Van passerait forcément devant une des deux équipes. Donc ça aussi, ça va être super intéressant, quoi.
Donc, mine de rien, ce match qui paraît un peu déséquilibré, il y a quand même un enjeu derrière.
Ouais, ouais, non, c'est là, vendredi, on va avoir une super soirée. Dans les matchs de vendredi, on aura aussi Fréjus qui reçoit Martigues. Bah là, Jordan, dans ce derby, on va dire, un petit peu du sud, Jordan, Thomas et puis même tout le monde, quels sont un petit peu les enjeux, qu'est-ce qu'on attend de ce match-là? Une équipe de Fréjus assez solide à domicile, et une équipe de Martigues qui revient d'assez loin.
On attend du côté de Martigues, essayer au moins de prendre un point pour pas que Fréjus s'éloigne au niveau du classement, car... on va dire que Beauvais, Luznac et Martigues sont à un point d'écart et que Fréjus est vraiment à 3 points, 4 points de Martigues, donc ils veulent pas s'échapper, donc ils veulent au moins avoir le nul, voir la victoire. Donc on attend un petit peu avec impatience et pour faire un résultat.
Ouais, tu penses qu'à Martigues déjà aller chercher un match nul pour continuer avec le match nul pris à domicile la semaine dernière? Ça serait pas mal ou tu penses qu'on peut viser encore plus haut?
Ah, c'est pas mal pour l'instant, mais pour Martigues qui a été repêché à cause des clubs qui sont descendus pour cause de liquidité, je pense que Martigues va essayer de se maintenir cette année et puis rester sur le milieu de tableau.
Donc déjà un match nul à Fréjus qui est solide à domicile, ça serait pas si mal.
Voilà, exactement.
En plus Martigues, ils ont un petit peu un parcours à Cherbourg, et leur dernière victoire, c'était pas le 30 septembre, mais bon, c'était le 1er octobre, donc ça fait quand même assez loin aussi.
Ouais, c'est un peu loin. Juste, pour côté de Fréjus, Fréjus à domicile, on a dit que c'était solide, que c'était à l'extérieur qui était plus friable, à domicile, c'est solide, il y a pas mal de buts aussi, et Martigues à l'extérieur, c'est catastrophique, donc là aussi, un match qui paraît déséquilibré, mais... On sait jamais avec Fréjus, hein. Je pense que le coup de la coupe là, face à Ajaccio, ça leur a mis un gros coup sur la tête. Donc faut voir s'ils arrivent à rebondir. Pour, comme je disais, Fréjus leur ambition. Après, s'ils avaient mieux négocié les matchs à l'extérieur, ils auraient pu
viser plus haut.
Pourquoi
ouais.
pas viser plus haut, ouais, viser les places d'honneur.
En début de saison, Cherbourg, avec le recrutement qu'ils avaient fait, franchement...
Fréjus plutôt.
Fréjus, ouais. Avec le recrutement qu'ils avaient fait, on les attendait haut, hein, parce que bon, il y avait quand même une belle équipe, hein, sur le papier, avec Gamondès, avec Scarpelli, Mathieu Dreyer, dans les cages. Il y avait quand même pas mal de recrues, et j'étais allé voir sur des forums, on les attendait haut. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a eu ce problème à l'extérieur où ils n'ont jamais su franchir le pas, quoi. Et vraiment.
Oui, il y a des anciens pensionnaires de Ligue 2 qui ont quand même. Qui ont assez d'expérience, donc moi aussi je les attendais bien, et puis il y a eu le, je sais pas, je pense ça jouait aussi le licenciement de l'entraîneur qui a été remplacé, donc c'est un peu compliqué en ce moment, et je pense que surtout le match face à Ajaccio, ils s'y attendaient pas du tout, et ça les a sonnés, et comme je disais, faut voir leur réaction dès ce week-end face à Martigues, qui est assez mal en point, donc ils pourraient encore plus les enfoncer.
Ouais, mais quand tu vois aussi... eux-mêmes. Quand tu vois aussi le classement de Fréjus, tu dis que quelques bons résultats et puis ça peut relancer, quoi. Parce que là, ils sont à 3 points du 7e Colmar. Quand tu vois Colmar en décembre, en début décembre, ils étaient à 14e place. Ils ont fait un sans faute en décembre. Ils se retrouvent à la 7e place. Donc après, quelques bons résultats et puis ça peut repartir.
Bon, bah, puisque tu parles de Colmar, Thomas, Colmar, ils reçoivent Bayonne. Bah, là, c'est un petit peu, on va dire, il faut enchaîner, quoi, face à une équipe comme ça. T'as raison, il y a eu un bon mois de décembre, il va falloir enchaîner là-dessus. Mais c'est souvent un petit peu là, Colmar, quand on les attend, qui nous déçoivent, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr. Alors ouais, en décembre, c'était le mois parfait, quoi. Alors que Colmar, c'est vraiment dans le si, quoi. C'est le toujours, on sait pas, contre des petits clubs, ils peuvent vraiment se ramasser la gueule, mais lourdement, et contre des grands clubs, ils peuvent faire des matchs superbes. Alors la dernière fois, c'était contre Niort, et ils avaient perdu dans les dernières secondes. Du match, ils ont perdu 2-1 à Niort. C'était un peu, ils étaient un peu déçus, hein, après des victoires contre PFC 3-0, à Cherbourg 2-0 et contre Partick 3-0 dans l'an mois de décembre. À part le PFC, c'était des équipes de bas de tableau, mais bon, c'était quand même très encourageant, et on l'a vu contre Niort encore, où ils dominaient plutôt les débats. Donc à eux de confirmer maintenant contre Bayonne, qui est la lanterne rouge actuelle, hein, qui est elle aussi comme Martigues et d'autres, est remontée en national à la faveur des clubs qui ont été liquidés comme Strasbourg ou encore Cannes. Donc Bayonne qui pêche, hein, parce qu'il n'était pas du tout préparé à jouer en national. Donc c'est à Colmar de faire le jeu et de marquer. Et je sais que Bayonne sera là pour prendre au moins un point. Et Colmar, à domicile, bon, bah, c'est un peu comme leur classement général. Ils sont 8e avec 9 victoires. Ouais. Enfin, avec 6 victoires. À domicile, ils sont quand même mieux. Parce que c'est vraiment aussi un peu comme Fréjus. C'est un peu à l'extérieur que ça pêche. Donc, c'est à domicile, faut en profiter. Il faut enchaîner en gagnant ce match. Colmar est là maintenant pour jouer les troubles faites, hein. Ils ont pas encore leur maintien en poche, ça c'est clair, hein. Il suffit qu'ils fassent des mauvais résultats et tout va vite, hein. Ce classement national est très serré, donc c'est à eux de continuer, de jouer pourquoi pas les troubles faites en tableau, mais en tout cas s'ils arrivent à accrocher les 10 premières places, ils sont déjà.
À noter la recrue de Bayonne, bon, c'est un jeune joueur, c'est Francis Massampou, jeune joueur du centre de formation, buteur central de 19 ans du Valenciennes FC, prêté 6 mois à Bayonne, donc faudra peut-être compter sur lui.
Ouais, si ça peut être un renfort de plus pour Bayonne. C'est vrai qu'ils auront besoin de tout le monde dans cette fin de saison. Après, sur certaines journées, on les attendait quand même plus loin des autres, hein. Aujourd'hui, tu regardes, ils sont que un point derrière Besançon, 3 derrière Cherbourg. Faut pas non plus les enterrer trop vite, même si on sait quoi, avec le repêchage de dernière minute, on leur a pas fait le plus de cadeaux possible en début de saison. Avec de quoi vous voulez parler, messieurs?
Bah, peut-être du dernier match qui aura lieu le vendredi.
Ouais, je l'ai oublié.
Le fameux Beauvais-Queville.
Et bien sûr que non, je l'avais pas oublié. Je le gardais un petit peu pour la fin, étant donné qu'il sera à suivre sur les antennes d'RTS, évidemment. Et en plus, je saurai du déplacement dans un petit partenariat entre le débrief et le club de Beauvais. Donc voilà, on peut en parler, évidemment. Thomas, tu veux nous dire un petit peu ce qu'on attend de ce match côté Queville? Pas Thomas, Clément, pardon.
J'ai pas osé relever. Alors un match qui m'a l'air, ma foi, très intéressant, avec deux équipes qui ont alterné le bon et le moins bon. Bon, certes plus de moins bon pour Beauvais cette saison, mais il y a de quoi se refaire et remonter dans le classement. Après que oui, elle a une belle opération pour recoller tout simplement avec le peloton de tête. À l'heure actuelle, 5 points de retard derrière Ajaccio et Evan, 5e et 6e. Donc ces deux équipes qui sont pas forcément si loin au vu de cette saison, malgré tout, Queville reste sur une spirale assez défavorable. Quand on regarde statistiquement à l'extérieur, Queville est 9e au bilan à l'extérieur, mais n'a gagné une seule fois lors des 6 derniers matchs, donc ça fait très peu de points pris récemment.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un gros début de saison. Hein,
pour ça. Un très très gros début de saison où ils ont été sur le podium durant les 5 premières journées. Et depuis, ça descend progressivement. C'est pour ça que ce match contre Beauvais peut être une opportunité pour bien se relancer pour Queville. Du côté de Beauvais, je sais qu'on va recevoir cette équipe de Queville avec plaisir également. Deux défaites consécutives à domicile. Va falloir effacer tout ça et assez rapidement pour la SBO. Malgré tout, si j'avais un petit pronostic à donner sur ce match-là, je miserais
sur les derniers matchs à domicile. Beauvais, ils ont ce match nul contre Niort.
Eh ben oui, autant pour moi, j'ai pris la fiche dans le mauvais sens.
Donc, oui, non, c'était les deux derniers matchs à l'extérieur.
Les
matchs extérieurs, ils avaient été battus à Orléans là depuis la rentrée. Après, il n'y avait pas de Coupe de France pour les Beauvaisiens. Ils avaient été éliminés tôt, donc ils n'ont joué qu'un seul match en janvier. Ils n'ont ni participé au 16e ni au 32e de la Coupe de France. C'est clair que ça met un peu plus de pression encore sur les Beauvaisiens. Ce week-end, ils n'ont pas joué étant donné que le match à Épinal a encore été reporté. Et là, avec la réception de Quevilly, puis la semaine d'après, ils reçoivent à nouveau Besançon. Si Beauvais veut arriver à remonter et à accrocher un classement, on va dire un petit peu plus conforme aux ambitions de début de saison, ça passe dès ce match-là contre Quevilly.
C'est sûr. Donc, ma statistique que j'avais donnée fausse, je la donne correctement cette fois. Beauvais, c'est 4 matchs sans défaite à domicile lors des 4 derniers matchs, tout simplement. Donc, la pression est sur Quevilly, du coup. Et donc, l'objectif, ça va être de ramener les 3 points après une belle qualification en 8e de finale.
Avec le superbe but
de Joris Collinet, comme on l'a dit tout à l'heure, en effet. Donc Quevilly qui, on va dire, il va avec de l'ambition du côté de Beauvais.
Ouais, donc là aussi un match finalement pas mal. Beauvais qui doit vraiment lancer une bonne série. Là, ils auront 2 matchs à domicile consécutifs face à des équipes qui sont pas parmi les plus gros du championnat. On l'a dit, Quevilly qui reste quand même sur une série décevante puisqu'ils avaient vraiment très très bien démarré ce championnat. Puis après, il y aura la réception de Besançon. Enfin, on n'y est pas encore. Mais bon, Beauvais, ils doivent prendre des points. Et là, ça passe par une victoire que Quevilly voudra s'accrocher. Donc là aussi, un match intéressant à suivre vendredi soir. On va parler de Niort. Clément, on va quand même aborder le match du leader qui aura lieu samedi à 18h. Déplacement à Luznac. Luznac qui est revenu un petit peu du diable Beauvert pour utiliser cette expression chère à Thierry Roland. Luznac qui était mené en match en retard le week-end dernier 2-0, on l'a dit, à domicile par Cherbourg. Là, ils sont arrivés à remonter 3-2. En face, c'était Cherbourg. Là, avec Niort, ça sera quand même autre chose.
Je pense que si la situation du match dernier se reproduit, je pense que cette fois, Niort ne se fera pas avoir, contrairement à l'équipe à Cherbourg, qui a été repris la semaine dernière. Toujours est-il que cette équipe de Luznac va être une équipe intéressante à surveiller. Du côté de Niort, il va falloir se remettre de cette élimination en Coupe de France. Ça fait un peu un point noir au milieu du caviar, malheureusement pour Niort dans cette saison. Ils ont dit d'ailleurs qu'ils étaient officiellement maintenus en national. Bon, c'est vrai que ça n'a pas une grande importance vu les objectifs de l'équipe cette saison et par rapport au classement. 42 points, bon, c'est toujours agréable. Et après, Niort, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure équipe à l'extérieur. On a dit que c'était surtout une équipe qui gérait vraiment très bien les matchs à domicile avec de très très larges victoires. Toujours est-il qu'ils ont été capables de passer, par exemple, 5 buts à 1 contre Orléans. Bon, certes, Orléans a pris sa revanche, mais cette équipe de Niort, je pense qu'il va s'imposer. Et je mettrais même une pièce sur une victoire un peu plus large que ce qu'on peut imaginer, même si Luznac est plutôt pas mauvais à domicile. Malgré tout, Niort, c'est une puissance de feu récurrente. Sur les 20 matchs depuis le début de la saison, ils ont marqué au moins 2 buts à 17 reprises, si j'ai bien compté. Donc ça peut être un des points sur lequel il faut s'appuyer. Et à noter que Niort s'était imposé 4-0 à domicile au match aller.
Mais Luznac, les gars, parce que Luznac, c'est quand même vraiment le match piège à Luznac. Parce que
oui,
moi, pour avoir eu des échos de ce stade... moi j'en ai fait des stades en CFA2 parce que surtout cette année avec Strasbourg, et je te dis que celui-là
là on est en national quand même, Thomas.
Ouais,
c'est
ouais,
pas le débrief
ouais.
De la CFA2 là.
Ce stade-là à Luznac, c'est vraiment le stade piège, parce que c'est vraiment le stade isolé avec des vestiaires des vestiaires de
à l'ancienne.
Voilà, à l'ancienne, parce que Luznac, c'est une ville de quoi? De 4000 habitants, pas plus.
C'est dans l'Ariège, c'est ça?
Ouais, c'est dans l'Ariège.
Ouais, voilà, c'est le truc.
Vraiment, c'est, l'Ariège, c'est bien beau, mais il y a des montagnes partout.
On est là pour se faire des ennemis.
Même le bus de Strasbourg,
non, je suis là-bas, moi, c'est ma région.
C'est pour ça, du coup, t'as le droit de critiquer. C'est l'Ariège, c'est sûr que...
C'était quoi ton anecdote sur le bus de Strasbourg?
Ils avaient mis, ils étaient une demi-heure, trois quarts d'heure en retard parce qu'ils trouvaient pas l'UNAC. Alors ils ont dû décaler le match. La saison dernière, ils ont décalé le match parce que le chauffeur ne trouvait pas l'UNAC.
Ah ouais, d'accord. Alors, là, on a l'impression qu'on se retrouve dans le district quand tu trouves pas le.
Et ouais. Et la légende dit aussi que le terrain est pas droit là-bas. Voilà. Et les gens font courir là-bas. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le match piège. Et moi, je sais qu'on n'avait même pas gagné là-bas la saison dernière, qu'on avait fait match nul. Et c'est vraiment un champ de patates, mais de bonne qualité, hein, la patate. Et c'est. Non, c'est... Okay, c'est ça, bon. Ça va être compliqué pour Niort, mais bon, ils ont des qualités offensives.
Ouais, c'est vrai, c'est suivant le match comment il démarre. Après, ça va faire un petit peu comme dans ces matchs de coupe aussi où tu veux accrocher un peu le premier, comme dans les coupes où tu veux accrocher le gros. Et c'est vrai qu'il y a des difficultés sur le terrain en plus. Ça...
En plus, Niort, je pense qu'ils vont être piqués au vif parce qu'ils ont perdu contre Orléans. Donc...
Ouais, c'est sûr
qu'ils seront pas... On aura l'occasion d'en reparler peut-être la semaine prochaine avec un grand invité, mais c'est vrai que l'élimination en Coupe de France, à mon avis, a été vécue forcément mal, mais que d'un côté, l'objectif restait de la montée en Ligue 2, donc toutes les énergies vont être présentes et mobilisées pour ce match de championnat. Donc moi, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à l'élimination en Coupe de France. Mais je me focaliserai un peu plus sur l'aspect du match piège, comme nous l'a révélé Thomas.
Ouais. Justement, je pensais à un truc, vite fait. Donc, tu dis que Niort, ils ont dit qu'ils avaient assuré leur maintien. C'est loin de Auxerre, Niort ? Ça va pas être très loin, non ?
Est-ce qu'ils ne trouveraient pas des
parents ? Guirou, il rentre pas, là, non ?
Oh, mais Laurent Blanc nous avait fait la même avec Bordeaux, plus récent. Hein.
C'est vrai. Mais Laurent Blanc a joué à Auxerre. Pour conclure sur ce que tu disais, Clément, oui, bien sûr, tu parlais de notre invité, donc la semaine prochaine, invité exceptionnel avec donc Jimmy Roy, le milieu des Chamois Niortais, avec qui on pourra aborder donc la saison de Niort, évidemment, et pourquoi pas parler de cette défaite en Coupe de France de ce week-end.
On parlera caviar.
On parlera de caviar. Pour finir, il nous reste un match, le match un petit peu de, tu auras un avant-goût un petit peu ou un après-goût, je sais pas, de Coupe de France entre deux équipes encore qualifiées dans cette Coupe de France, avec le Gazélec d'Ajaccio qui recevra Orléans. Le Gazélec d'Ajaccio qui a montré en battant 3 qu'ils étaient capables vraiment d'une très grosse solidité à domicile et puis en on l'a entendu tout à l'heure dans les interviews, il y a vraiment une envie à domicile énorme du côté de ce club. Dont on sent vraiment transpirer la rage dans leurs interviews. Ça fait vraiment plaisir. Et je trouve même finalement ça attachant avec cette équipe d'Ajaccio. Mais Orléans, à la limite, moi je les aurais vraiment donné perdant à Niort le week-end dernier. Puis en coupe, ils sont allés renverser tout ça. Donc deux équipes qui restent vraiment sur une bonne série. Un match qui... où tout est permis, quoi.
Ouais, mais moi, en fait, c'est le truc que tu as dit sur Ajaccio, là, à domicile. Ajaccio à domicile, tu sais très bien les incidents qui s'est passé au stade.
Avec
Colmar et même d'autres, hein. Je peux te dire que j'ai vu des incidents avec d'autres. Ça leur a coûté quoi? 4 points, dont 2 avec sursis. Et bon, oui, c'est une belle équipe, hein. Je suis content pour eux pour la Coupe de France. Mais voilà, je trouve ça juste dommage. Et après, c'est vrai qu'à domicile, ils sont bons s'il y a autre chose, mais ils sont quand même deuxièmes. Ouais, à domicile, derrière Niort, avec deuxième, ils ont pris le match, donc c'est vraiment bien. Donc oui, c'est vrai que ça va être aussi deux clubs qui ont des matchs dans les jambes, parce que les autres clubs, ils ont beaucoup de chance et ils n'ont pas réussi pour la plupart à combler les trous. Donc on va voir, hein, on va voir ce qui sera le plus méritant. Alors, je sais plus qui avait tiré. Oui, Ajaccio, ils ont tiré en Coupe de France aussi, ouais. Donc, ça va être un match assez indécis et peut-être qu'il y aura même un petit plus fatigué que l'autre parce qu'ils ont dû tous les deux batailler, surtout Orléans. Mais je pense quand même que Ajaccio gagnera parce qu'ils sont quand même à domicile.
Ouais, après Ajaccio. Là, en après Coupe de France, bon, la dernière fois, c'est vrai que c'était entre deux matchs de Coupe de France, ils avaient quand même perdu à Bayonne celui d'avant, alors qu'ils restaient sur une série de 7 victoires consécutives qui les avaient fait remonter du fond du classement à cette belle 6e place. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas une décompression après, après la Coupe de France où ils sont allés réaliser vraiment des petits exploits et qui sont encore en huitième de finale, ouais.
Ok.
Je pense qu'ils iront loin, Ajaccio.
Allez, et donc les deux derniers matchs de cette journée, c'est deux clubs franciliens. Le Paris FC qui se déplace au Poiré Survie. Le Paris FC qui voudra confirmer sa bonne forme en ayant battu Créteil lors de la dernière journée. Voilà. Et puis l'autre match, c'est le Red Star qui se déplace à Besançon. Là, c'est carrément le match de la peur.
Ah oui, c'est surtout le match de la peur. Ça fait peur. C'est la fin du classement. C'est malheur au perdant. Là, tu peux rien faire d'autre. Et Red Star, ouais. En plus, qui reste sur le match contre Marseille, là.
Red Star, il reste quand même sur la belle victoire face à Rouen en championnat. Et là, il pourrait peut-être passer devant.
D'ailleurs, sur ce truc-là, sur ce match, le point de Rouen est juste magnifique. Quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est énorme.
Ça sera à voir. Ouais, le Red Star qui fait aussi partie de ces équipes à avoir changé son entraîneur, puisque Vincent Doucanti est maintenant le coach odonien. Et ben voilà, messieurs, on s'est tout dit pour cette 21e journée. Si vous avez pas de. Si vous avez rien à ajouter, on va conclure ce débrief. Et puis voilà. Rien à ajouter ?
Bon, c'était une belle émission. On a parlé de Coupe de France, de National. On a fait quelques petits pronostics. Puis voilà.
Et on a rendez-vous donc la semaine prochaine, pardon, pour parler donc des résultats de cette 21e journée. Et pour recevoir donc notre invité, je vous le rappelle, Jimmy Roy, des Chamois Niortais. Voilà, bonne semaine à tous. Rendez-vous vendredi soir pour la journée avec notamment Beauvais et Quevilly. Et sinon, pour le débrief, rendez-vous donc mardi prochain dès 20h. Allez, bonne semaine à tous. Au revoir.